RVM, atelier éducatif. RVM.
Les sociados.
La sociologie expliquée par les adolescents. Bonjour à tous et à toutes, nous accueillons aujourd'hui les premières deux pour un nouveau débat. Nous avons remarqué que l'école peut être souvent menacée. En effet, nous avons pu remarquer la mort de Samuel Paty et Dominique Benard. Elle interpelle sur le rôle de l'école dans la société. De plus, en première et en terminale générale, on compte 36% d'enfants de cadre contre seulement 15% d'ouvriers. Nous pouvons donc nous demander si l'école est un intégrateur social. Pour cela, les pour nous montreront que l'école nous apprend une culture et une langue commune. Cependant, les contres nous démontreront qu'il peut être difficile de s'intégrer de par les statuts sociaux. Je vais donner la parole à Héloïse Despours pour commencer.
Oui, l'école est un intégrateur social. Elle permet depuis très longtemps déjà de former les jeunes de la société pour avoir une connaissance commune, une base, un socle qui donne à tous les enfants une possibilité d'avenir, d'avoir un travail, de s'en sortir dans notre société actuelle qui est une société salariale où l'argent fait le statut et où le travail est un grand défi d'avenir.
Très bien, la parole à Timéo.
Pour revenir sur cette question de l'école en tant qu'intégrateur social primordial, je voudrais faire remarquer que depuis quelques années maintenant, si ce n'est quelques décennies, l'école, notre système scolaire est de plus en plus défaillant. Et c'est un fait. De nombreux sociologues montrent que l'évolution de la société provoque de nombreuses défaillances donc, dans le système scolaire.
Les études PISA, qui sont des études statistiques sur les résultats scolaires,
montrent de plus en plus qu'ils se montrent défaillants, moins performants et plus inégalitaires. C'est un reflet de la société. Le sociologue Merle nous présente par exemple que les filières professionnelles sont plutôt de plus en plus réservées aux personnes issues de milieux défavorisés et les filières prestigieuses aux personnes issues de milieux favorisés. Il parle de démocratisation ségrégative. Tous ces éléments nous portent à penser qu'avec l'évolution de la société, donc la communautarisation de cette dernière, elle agit sur l'école et provoque donc cette démocratisation ségrégative.
La parole à Héloïse.
Certes, elle fait une démocratisation de la ségrégative, mais elle crée aussi une cohésion sociale. On va pouvoir retrouver des gens de différents milieux, de toutes sortes, entre guillemets, à l'école. Les enfants peuvent rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles possibilités, des idées nouvelles, différentes de ce qu'elles ont connu dans leur enfance, avec leur famille. Ça permet l'ouverture de tous ces enfants et permet donc la cohésion sociale.
La parole à Candice.
Y a aussi de la discrimination et du harcèlement. Et sur le genre, les origines, la classe sociale, le physique. Et ça peut isoler certains élèves et les empêcher de s'intégrer. Et il y a 46% des élèves qui déclarent avoir été victimes de violences de façon répétée durant une année.
La parole au pour avec Timothée.
Pour le cas du harcèlement, on l'a vu avec le questionnaire qu'on a tous dû passer la semaine dernière. L'État essaie de mettre en place de nouvelles choses pour lutter contre cela. Après, il faut encore voir les résultats, savoir si c'est vraiment possible que ça change quelque chose. Mais un effort est fait par l'État, pardon, pour améliorer ce point.
Candice.
Le questionnaire, il était anonyme et pas obligatoire. Donc, ce que tu as dit...
Oui, mais le harcèlement, c'est les enfants qui le font. C'est pas dans le sens strict de l'école. C'est les enfants qui font le harcèlement, c'est pas l'école en tant que telle. C'est à l'école qu'on va rencontrer d'autres gens qui peuvent nous harceler. Mais c'est pas la faute de l'école si nous sommes harcelés. C'est la faute des enfants qu'il faut continuer d'instruire pour arrêter ce harcèlement.
Je pense que l'école, elle participe à cet harcèlement. Par exemple, si les professeurs, ils n'interviennent pas, s'ils voient une situation où un élève peut être harcelé ou qu'on se moque de lui, s'ils n'interviennent pas, bah, ça fait que ça peut entraîner un harcèlement ou même juste ils ignorent, c'est pas juste. Et je trouve que c'est aussi une possibilité que ce soit l'adulte, l'enseignant qui provoque cet harcèlement ou cet éloignement de la sociabilisation, car il peut de côté, en lui donnant pas la parole par exemple, en faisant plein de choses comme ça, en le laissant sur le côté.
La parole au pour avec Héloïse.
Si on reprend l'ignorance des enseignants envers le harcèlement, c'est souvent que les enfants ne vont pas dénoncer leur agresseur. Je ne dis pas que c'est la faute des enfants de se faire agresser ou harceler ou quoi que ce soit, ce n'est absolument pas ça. Ce que je veux dire, c'est que souvent, les enseignants ne savent pas parce qu'on ne va pas leur en parler, que les témoins ne vont pas leur en parler de peur du harceleur ou de l'agresseur. Et donc, on ne peut pas tout reprocher au professeur tout le temps.
La parole à Candice.
Le but de l'école, c'est quand même de mettre les enfants en confiance et justement que, de faire en sorte qu'ils aillent voir les professeurs quand il y a quelque chose qui ne va pas. Donc si les enfants ne vont pas voir les cours, c'est parce que l'école a mal fait son travail.
Nora, pour soutenir les propos de Candice des contres.
Et malgré le fait que l'école essaie d'imposer une morale laïque, et l'école tente aussi, qu'elle tente aussi de permettre aux jeunes de bien s'intégrer à la société, l'école n'arrive plus à transmettre une culture commune, que ce soit le savoir, les normes, les valeurs, donc c'est déjà en fait de plus en plus compliqué.
La parole à Timothée pour les cours.
Sur le fait d'enseigner une conscience commune, ce n'est pas tant la faute de l'école que l'éducation qu'ils ont reçue. Si jamais ils ont reçu une certaine éducation religieuse, ils ne vont pas voir la même chose que leurs camarades de classe laïques, et de fait, ils ne vont pas avoir la même conscience qu'eux.
La parole à Athénaïs pour approfondir les propos de Timothée.
Malgré la difficulté d'instruire, par exemple, tout ce qui est de la Shoah ou les événements passés, l'école intègre de la culture, car elle transmet notamment les valeurs de la République.
Et enfin, Mathilde.
Et l'école, elle transmet aussi des normes comme la ponctualité, la rigueur ou le respect, qui permettent de sociabiliser l'individu et de favoriser l'insertion professionnelle et du coup sociale.
La parole à Candice.
Mais la concurrence d'autres instances de socialisation, elle rend difficile la transmission de ces normes et ces valeurs.
Léna, peut-être ?
Sur un autre point, de plus, l'école, elle est gratuite, donc ce qui offre un accès égal à l'éducation, éliminant les problèmes financiers qui pourraient empêcher les élèves de participer à la vie éducative. Donc cela renforce le rôle de l'école dans l'intégration sociale.
Nora ?
Certes, comme tu le dis, l'école est gratuite. Si on met hors de ça les écoles privées, l'école publique, en fait, elle donne accès à tout le monde. Sauf qu'en fait, quand on arrive au moment de la filière, donc après le baccalauréat, les élèves sont divisés parce que quand on voit en fait les différentes écoles, tout ça, en fait, on voit que les personnes qui viennent plus d'une classe favorisée vont par exemple dans des grandes écoles et ceux qui sont plus dans une classe défavorisée vont plus se retrouver comme par exemple dans des BTS.
Très bien, la parole à Héloïse.
Pour pallier le manque d'argent des familles, il existe des bourses pour les études. Certes, il faut s'accrocher pour les avoir, mais il y a quand même une possibilité de sortie. Il y a quand même une possibilité de sortie pour ces élèves qui veulent vraiment continuer, qui veulent s'accrocher, qui essayent vraiment pour s'en sortir et avoir ces études qu'ils ont peut-être toujours voulu.
La parole à Timéo.
Au-delà de la question de la bourse, il y a d'abord une question qui est préliminaire à la question de la bourse, puisque la bourse s'acquiert quand on rentre à l'établissement que l'on visait.
Boudon, sociologue,
illustrait le fait que les choix de filière étaient différents déjà au départ selon l'origine sociale, car les familles pratiquaient la technique du coût-avantage qui résidait au fait de choisir les solutions les moins chères quand on n'avait pas forcément les moyens de s'offrir des études très chères.
La parole est Louise.
Mais du coup, c'est pas un problème de l'école, si c'est la famille qui décide du coût des filières. Tu viens de dire que c'est la famille qui décide que ces études vont être sûrement trop chères. Moi, à mon avis, elles décident pas trop, mais vont être trop chères ou plus compliquées. Ce n'est pas l'école qui dit aux élèves « vous ne pouvez pas continuer ». C'est la famille, qui est encore une autre instance, qui va mettre des limites, même si compréhensible, à l'élève qui veut continuer.
Vous êtes sur RVM et vous écoutez un débat sur l'école permet-elle l'intégration sociale avec la classe de première du lycée Jean Monnet de Crépy-en-Valois, animée par Cerise Sanson, lycéenne.
Gilles, pour les contres ?
Malheureusement, en fait, on est obligé de prendre en compte l'avis de la famille parce que un élève ou un étudiant, s'il veut pouvoir partir dans une certaine filière éducative, du coup, il doit prendre en compte les moyens financiers de sa famille. Il doit aussi, des fois, c'est une histoire de culture aussi. Il doit demander à ses parents, se conseiller auprès d'eux. Et du coup, on ne peut pas éloigner la famille de cet aspect-là, de l'orientation que l'enfant va prendre dans sa filière éducative.
La parole est Louise. Certes, l'école est toujours reliée à la famille. C'est un fait qu'on ne peut pas vraiment dissocier. Mais justement, l'école va apprendre à l'élève à se dissocier de la famille. Il va de plus en plus être indépendant, essayer de lui-même s'en sortir en trouvant un job à côté ou en allant chercher ailleurs. Donc certes, les choix de la famille seront toujours déterminants pour un enfant. Justement, l'école est là pour essayer de, pas pallier, mais d'aider l'élève à s'élever plus haut que sa famille et leurs décisions.
Athénaïs, pour appuyer les propos d'Héloïse.
De plus, l'école doit permettre à l'enfant de développer sa personnalité et de s'épanouir et de recevoir des influences autres que celles de sa famille.
Nora ?
Alors, Héloïse et Athénaïs, vous parlez du fait que la famille permet à l'enfant de se surélever. Mais le paradoxe d'Anderson prouve qu'un diplôme surélevé par rapport à celui du père ne garantit pas un meilleur statut social. Ce qui fait que, du coup, l'élève ne va pas être aidé, entre guillemets, par rapport à ce que son père ou sa mère a vécu précédemment.
La parole à Athénaïs, des pour.
Mais justement, c'est ce que j'ai dit. L'école, elle doit permettre à l'enfant de recevoir des influences autres que celles de la famille. Donc là, tu parles du travail du père. Tu prends un travail dans lequel tu aimes être. Tu le fais pas pour ta famille en soi, normalement.
La parole à Timéo.
Également, il va falloir m'expliquer à partir de quel moment vous estimez qu'un étudiant peut être indépendant, étant donné que la vie actuelle coûte relativement cher et que trouver un appartement dans je ne sais quelle grande ville pour poursuivre des études, ça coûte un argent qu'un étudiant ne peut pas se permettre d'avoir dans son porte-monnaie.
Tessa, peut-être pour répondre ?
Moi, je ne peux pas répondre à Timéo, mais j'ai un autre argument par rapport à le fait que l'école, elle intègre. Déjà, à l'école, c'est la plupart du temps là-bas qu'on se fait des amis, tout simplement. Et puis aussi, les enseignants, ils font en sorte de nous faire des travaux collectifs, etc., pour qu'on apprenne à sociabiliser entre nous. Et donc déjà, rien que cet aspect-là de l'école et de ce que l'enseignant nous apporte dans un travail collectif, ça permet l'intégration.
Jélis, pour répondre à Tessa ?
En fait, malgré que c'est à l'école qu'on trouve la plupart des amis qu'on va se faire, le temps fait que souvent on n'a plus d'amis, enfin on s'en trouve d'autres, mais c'est possible aussi qu'on arrête d'avoir des amis et que du coup on se retrouve dans un isolement social qui fait qu'on n'est plus apte à se sociabiliser avec les autres. Et aussi, malgré le fait qu'il y a l'intégration des travaux de groupe dans l'école, ça n'empêche que la conversation ne va pas forcément se faire avec les élèves qui sont seuls. Ça veut dire qu'on peut les mettre sur le côté malgré le fait qu'on soit en groupe.
La parole à Athénaïs.
Moi, ce serait pour répondre à Timéo. Tu as dit que, je ne sais plus comment tu l'as dit, certes, il y a besoin d'avoir le soutien de ses parents dans une grande ville, admettons, pour faire les études. Je n'ai jamais dit que, oui, il fallait totalement se détacher des parents.
Héloïse ?
Pour appuyer les propos d'Athénaïs, non, c'est ce qu'on disait, on ne veut pas désolidariser les enfants totalement des parents, mais ils peuvent eux-mêmes essayer de s'élever en allant eux-mêmes chercher de l'argent dans un autre boulot, en essayant d'attraper des bourses, grâce à l'aide de leurs parents, certainement, mais aussi d'eux-mêmes, où l'école va les aider à justement trouver un travail pour cet argent pour continuer.
Sarah, peut-être pour répondre ?
C'est vrai, sauf que pour obtenir des bourses, il faut quand même avoir un niveau scolaire minimum. Et on sait qu'il y a beaucoup d'échecs scolaires en France. On sait aussi que le système éducatif français, il est peu performant, ce qui peut du coup nuire aux situations post-bac.
Nora, pour appuyer les propos de Sarah ?
Et c'est vrai qu'en fait, depuis un bon moment, là, on parle de l'école, donc après avoir obtenu un diplôme, sauf qu'au final, on a quand même chaque année 100 000 jeunes qui sortent de l'école sans diplôme. Donc il faut quand même prendre en compte cette chose-là, parce que depuis le début, en fait, on parle des élèves qui ont un diplôme qui vont à l'école, mais il y a aussi cette grosse majorité, enfin cette grosse partie-là plutôt, qui sort de l'école sans diplôme.
Mathilde, pour les pour ?
Pour répondre à Jélis, c'était pour dire que du harcèlement et des personnes mises à l'écart, peut y en avoir partout. Après, l'école, elle fait tout pour qu'il y en ait le moins possible, mais partout où il y a des gens, il peut y avoir du harcèlement et des gens mis à l'écart.
L'école, c'est un intégrateur de la société primaire. Du coup, le fait qu'il soit mis à l'écart ou harcelé tôt, ça fait que ça va, déjà d'une, ça va créer du manque de confiance en eux pour les
future sociabilisation avec les autres, ça va être difficile. Ils peuvent avoir un manque de confiance en eux et ça peut entraîner beaucoup de choses. Du coup, la dépression, ou avoir du mal à faire leurs devoirs, ça peut être plein de conséquences négatives sur la personne.
Timothée, pour répondre.
Premièrement, sur les points négatifs que tu évoques via le harcèlement, aujourd'hui, plusieurs métiers ont été mis en place pour pallier à ça, via la psychiatrie ou autre. Et si jamais on perd ses amis que l'on avait à l'école, durant notre enfance et tout le moment passé à l'école, on a appris au moins à se sociabiliser. On a appris à développer une manière de se faire des amis, chose que l'on pourra réutiliser une fois dans la vie active.
Mathilde, pour appuyer les propos de Timothée.
Il y a plus de positifs que de négatifs parce que c'est une minorité de personnes qui est harcelée ou mise à l'écart. Ça apporte plus, ça sociabilise plus que ça met à l'écart des élèves.
Lila, pour répondre peut-être.
Juste avant, on a vu que selon les pourcentages que je n'ai plus, ce n'est pas une minorité de personnes qui étaient mises à l'écart quand même. 46%, ce n'est pas une minorité.
Bah si.
Ok, mais 46% c'est quand même énorme, c'est pas comme si c'était 12% de la vidéo qu'on a visionnée juste avant.
La date de 2004, s'il te plaît, ça a changé maintenant. Il y a des grandes mesures qui ont été prises contre l'harcèlement et je pense que...
Des grandes mesures,
pas vraiment.
Oui, maintenant c'est l'harceleur qui s'en va.
Bah, bien sûr que si.
Mais alors, donne-moi un exemple d'une personne que tu connais, un harceleur qui a été...
Calmez-vous. Tessa, tu parles et après Lila, elle
reparlera. Ouais, je parle. Et donc je disais, bah non, j'ai pas d'exemple parce que moi j'ai pas, enfin je suis désolée, mais dans ce lycée en tout cas je connais personne qui a été harcelée, non. Et bah voilà, et bah cette année tu peux me citer quelqu'un qui a été harcelé? Non.
Bien sûr.
Voilà.
Ne serait-ce que tes camarades de classe, si t'ouvraient un peu plus les yeux, tu verrais peut-être Tessa, je veux pas citer de nom parce que ça se fait pas, voilà quoi, mais t'en verrais peut-être qu'il y en a deux ou trois qui vont pas très bien.
Non mais ne pas aller bien et se faire harceler c'est quand même vachement différent.
Si je te dis qu'ils vont pas très bien et qu'on parle du harcèlement, c'est parce qu'ils sont harcelés, non?
De la classe?
Bah oui, de la classe, oui. Ça sert à rien de vouloir me contredire alors que là t'as rien à dire. Il y a beaucoup plus. Non, attendez. On va conclure avec Candice.
Moi j'ai un autre argument, c'est que les écoles, c'est très inégalitaire. Y en a plein qui sont défavorisés et qui manquent de ressources. Elles peuvent pas fournir des opportunités égales aux élèves et ça crée des disparités qui affectent l'intégration sociale. Y a 1092 réseaux qui sont classés réseaux d'éducation prioritaire à la rentrée 2022.
Merci à tous pour ce débat. On se retrouve dans un prochain épisode des Sociados.
C'était un débat sur l'école permet-elle l'intégration sociale avec les lycéens et lycéennes de la classe de première d'enseignement moral et civique du professeur Barbara Maurice du lycée Jean Monnet de Crépy en Valois. Animé par Cerise Sanson, lycéenne. À réécouter sur www.radio-valois-mulcien.fr. Bonne écoute sur RVM.